Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Si vous venez manger chez moi, apportez du pain puis du fromage. C'est les deux choses que j'aime le plus. Puis moi, on me dit toujours que je cuisine pas assez puis qu'il y en a jamais assez dans l'assiette quand on vient chez nous. Fait que pain, fromage, ça va être le bienvenu. Bonjour, je m'appelle Julie Bilodeau. Bienvenue dans le balado Cuisine ton quartier à la salle. En général, si j'avais un mot pour décrire mon parcours, je dirais que c'est de l'opportunisme plutôt qu'une carrière. Donc moi, j'ai commencé d'abord avec l'histoire de l'art pour ensuite m'en aller vers gestion de documents et archives. J'ai hérité un petit peu de ce qui traînait sur le coin du bureau de tout le monde, qui était à l'époque les spectacles scolaires, avant même que le mot « médiation culturelle » devienne un peu le gluten de la culture. Tout le monde veut en faire, mais on ne sait pas trop pourquoi au début, là. J'ai eu la chance de faire ensuite un cours en médiation culturelle au même moment où mon employeur Tangente a eu la chance de faire partie d'un super beau projet, c'est-à-dire une relocalisation dans le quartier des spectacles. Et moi, j'ai eu la chance de vraiment tout développer le volet médiation culturelle. Et à travers ça, j'ai travaillé avec des gens qui avaient un profil très art social, beaucoup plus que développement des clientèles, tu sais, beaucoup plus que juste l'idée d'amener les gens à la culture, mais plutôt comment l'art peut devenir un outil, en fait, ou pas régler un problème, mais du moins sensibiliser ou aider à résoudre une situation. Là, on a développé des projets avec les Premières Nations. On continuait beaucoup à travailler avec les enfants, mais dans des projets avec plus d'ampleur où on allait dans les écoles, faire des résidences artistiques où là, j'ai découvert toute la diversité culturelle vraiment de certains quartiers, qui est très importante aussi, là. On a travaillé aussi avec des gens en difficulté. On a essayé de faire des projets en itinérance qui étaient quand même plus compliqués aussi. Mais c'est vraiment là que j'ai touché premières expériences. Donc, je suis au Centre Henri Lemieux depuis moins d'un an. Ce qui m'a amenée ici, en fait, ça a été un court passage à l'arrondissement de la salle. Donc, ce qu'on appelle la division culture, ceux qui sont dans le réseau Accès culture, en fait. Là. J'ai eu un poste de consultante en médiation culturelle. Je ne suis pas restée très longtemps. Je suis arrivée quelques mois avant le début de la pandémie. Dans le centre ici, il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Grand Sceau, qui est le lieu de diffusion de l'arrondissement de la salle. On fait un peu office de maison de la culture, donc les spectacles qui sont programmés par l'arrondissement sont présentés ici. Donc, je connaissais déjà l'équipe et eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour mettre en place la prochaine édition d'un marché de Noël. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'aventure avec le Centre culturel Henri Lemieux. Déjà, pour un peu comprendre qui on est, le Centre Henri Lemieux, c'est-à-dire que nous, on est une bâtisse municipale qui a le mandat, en fait, des activités des différents espaces qu'il y a ici. C'est-à-dire que nous, on a cette année, en fait, un partenaire principal tout le temps, là, qui est l'arrondissement de la salle. Donc, nous, on est en soutien à leurs activités dans le théâtre et dans la galerie. On a en plus une programmation en loisirs culturels qui est gérée seulement par nous. Et on a aussi toutes les activités de nos partenaires. Il y a deux autres organismes dans la bâtisse. Et aussi un organisme qui s'appelle le Centre du Vieux-Moulin qui offre des services aux personnes âgées de 55 ans et plus sur le territoire ici. Donc ça, c'est vraiment notre mandat. Au niveau de la programmation, les artistes qui sont présentés au Théâtre du Grand Sceau, ici au Centre culturel, ce sont d'abord les artistes qui sont programmé par l'arrondissement de la salle. Et on a également, nous aussi, notre propre programmation pour laquelle on est subventionné et qui a le mandat de mettre de l'avant les communautés culturelles ou les groupes ethnoculturels qui sont représentés sur le territoire de la salle. Également, donc, de les faire venir et également, moi je dis c'est par et pour les communautés culturelles, en fait, ce que nous on présente. Ça représente environ un spectacle par mois, en plus de la programmation de l'arrondissement. Quand je suis arrivée ici, évidemment, la première question que je me suis posée, c'est mettre de l'avant un artiste d'origine haïtienne, mais qui vit au Québec depuis pratiquement toujours, est-ce que ça va faire venir nécessairement la communauté haïtienne? Qu'est-ce qui les fait venir? Qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer comme culture? Je pense que ça, c'est un positionnement qui est continuellement à réfléchir. Mais là, présentement, nous, on va vraiment chercher des artistes qui sont issus d'un groupe ethnoculturel et qui ont un produit culturel aussi qui émerge, en fait, de leur culture. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement aller chercher un artiste qui est d'une certaine origine, mais qui est dans un produit culturel québécois, comme on peut trouver partout sur différentes plateformes. On va aller chercher quelque chose de plus proche de la musique du monde, en fait, je dirais. Là. Bien, comme je dis, je suis ici depuis moins d'un an, donc j'ai vu une programmation un peu succincte, en fait, de la saison passée, vu la pandémie. Donc, on a eu un peu une reprise de l'équivalent d'une demi-saison. À l'intérieur de ça, j'ai découvert des artistes de différentes pratiques artistiques. Ce que j'ai eu la chance de voir, ça a été surtout musique et danse. Si je peux en nommer quelques-uns pour vous donner des exemples, j'irai avec l'artiste Bia qu'on a présenté avec un groupe de percussionnistes qui s'appelle Maracuja. Ben là, on est vraiment en musique brésilienne avec cette collaboration-là. Ensuite, on a eu un artiste qui s'appelle Carlos Ramirez, qui lui est un chanteur hispanique, qui fait de la chanson en fait, mais qui parcourt vraiment différents pays hispanophones en Amérique du Sud principalement. Donc, c'est un beau petit voyage, Cuba, Brésil, Mexique, dans de la chanson populaire, principalement en espagnol. Là, on est allé vraiment chercher toutes les communautés hispaniques ici qui sont quand même très bien représentées. On a eu aussi une artiste en danse contemporaine, disons peut-être plus performance, qui s'appelle Claudia Chantak, qui avait entre autres créé une pièce justement sur ses origines, ses racines malgaches chinoises. Une artiste qui est née à Québec, mais dans une famille qui vivait avec des traditions chinoises très ancrées, qui cherchait à savoir aussi qu'est-ce qui avait porté certains de ses ancêtres à quitter la Chine et pourquoi passer par Madagascar aussi et comment tout se réapproprier ou comprendre sa culture. C'était super comme spectacle. J'ai beaucoup aimé aussi une toute nouvelle artiste émergente que moi, je ne connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Willow. C'est une artiste métisse, en fait, des prairies canadiennes. Ça, j'ai trouvé que c'était un super beau spectacle. Sinon aussi, pour en nommer quelques-uns de la saison actuelle, voyez, cette année, on a pris la décision d'aller chercher un porte-parole. Un porte-parole qui résonne autant dans la culture québécoise que dans sa culture d'origine, qui est l'Italie, en fait. On a fait affaire à Marco Cagliari, qui avait mis en place, en fait, plusieurs soirées où il invite des artistes de d'autres cultures et ils font un spectacle commun, en fait, où chacun un peu parle à l'autre à travers ses compositions musicales. Donc, il devait venir deux fois. On espère toujours être en mesure de l'accueillir. Le premier spectacle était le 28 janvier. Oh, un amico grande come un gigante. Come Golia, non li metti piedi. Testami che meno ai suoi cari. Non vorrei sperimentarlo. Ma questo amico svelto proprio come un longhi. Se avesse le ali sarebbe suo volare verso quel sole grandioso. Donc lui venait la première fois avec un artiste qui s'appelle Paul Cunigis, qui fait de la musique klezmer, entre autres, de l'Est de l'Europe. Et la deuxième fois, il venait avec un auteur, compositeur, interprète qui est de l'Afrique du Nord. En fait, pourquoi les gens devraient venir, fréquenter le centre? Ben, il y a plein de raisons. On travaille vraiment très fort pour essayer d'être un pôle culturel d'attraction pour l'arrondissement ici. Ne serait-ce qu'avec la programmation artistique. Tu sais, c'est plus que, je dirais, à peu près 40 semaines de spectacles, dont la grosse majorité, en fait, sont gratuits. Il s'agit simplement de venir sur le site, de réserver un laissez-passer, et là, on a accès à tout ce bassin culturel-là qui est toutes disciplines confondues. On est en danse, en théâtre, en musique. Il y a à travers ça, en plus, tout ce qui se rattache de la programmation « Diversité culturelle ». Qui est menée par le Centre Henri Lemieux, en fait, par nous, directement. Donc là, c'est 12 semaines de spectacles qui sont vraiment par et pour la diversité culturelle. Ça rattache à ça du cinéma. Aussi, toute la programmation en loisirs culturels. On a beaucoup de cours de langue. Écoute, on donne des cours d'informatique en espagnol puis en anglais. Ça fait qu'on essaie vraiment très fort d'entrer, ou en tout cas, dans un quotidien. C'est pas juste venir plaquer quelque chose, venir quelque chose qui peut très bien s'intégrer dans la vie de tous les jours des citoyens, en fait, là. Sinon, on a une belle collaboration aussi cette année avec un partenaire de l'arrondissement qui s'appelle le Centre Prisme, qui offre notamment des services aux nouveaux immigrants, là, des cours de francisation et aussi de l'aide, là, trouver du travail, le logement, des choses comme ça. Mais ils ont à chaque année un festival qui s'appelle Festival Expression d'ici et d'ailleurs, qui en a sa 12e édition. Donc, ils sont dans notre programmation officielle cette année et eux, à travers leur programmation, ont choisi de mettre de l'avant la culture traditionnelle québécoise, d'abord, qu'on oublie, hein, souvent, je trouve, des fois... à mettre de l'avant à travers la diversité culturelle. Il y avait également des artistes d'origine hispanique. Toutes les fois qu'à chaque année, je vois la place des festivals au centre-ville qui devrait donc être un lieu de rencontre puis un lieu de tous les possibles. Et je trouve que c'est l'endroit où les programmations artistiques sont souvent les plus frileuses, les plus sécures. Je trouve que des fois, c'est ça. Ça fait juste me faire sentir que je trouve qu'il y a des choses qui pourraient s'ouvrir un petit peu plus. Ou, je veux dire, dans le milieu culturel, c'est pas si vrai que ça que la diversité culturelle occupe toute la place qui lui revient, en fait. Fait que moi, j'avais constaté qu'au départ, c'était des gens, justement, blancs canadiens de souche qui avaient embrassé cette cause-là comme si elle leur appartenait puis qu'elle allait la défendre bec les ongles et qu'elle était dans les premières rangées pour militer. Et moi, je me suis posé la question dans le sens, est-ce que vraiment, moi, j'ai envie de faire partie, de me positionner de cette façon-là? T'sais, je me suis mis à vraiment beaucoup me poser de questions. Je me pose beaucoup de questions dans la vie, là. On m'a déjà dit que j'étais « detail-oriented » comme personne. Je pense que c'est pas faux. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui, par le passé, avaient des approches anthropologiques, en fait. Surtout quand j'étais à Tangente, je vais la nommer, Dina Davida. qui était la commissaire, en fait, et qui avait ses études en anthropologie-là, nous a justement toujours donné beaucoup de contenu pour justement qu'on soit capable de défendre, qu'on tombait pas nécessairement dans le folklore. Parce que si je prends l'exemple des Premières Nations, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui sont frileux à programmer des artistes des Premières Nations parce qu'ils ont peur d'être vus comme, justement, le programmateur qui, surfe un petit peu sur les projecteurs qui sont sur eux présentement, ou sur le fait aussi qu'ils ont peur d'être accusés, justement, de les mettre sur scène avec leur costume folklorique ou traditionnel. Mais souvent, on leur demande pas ça. Et quand on parle de Premières Nations dans l'univers des arts contemporains, ça se défend avec l'idée de, changer les codes de représentation. C'est vraiment à ce niveau-là. Ce qui est nouveau aux contemporains pour eux, c'est de venir sur une scène. C'est de se mettre dans un mode de représentation et c'est de changer le canal, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être passer un message qui est différent, mais ça va toujours rester à travers leur culture, leur tradition. Et les costumes, ça en fait partie, là. Si je pourrais jouer un rôle dans la programmation ici au Centre culturel, et ce n'est absolument rien contre la programmation qui est faite actuellement, mais je souhaiterais, en fait, qu'il y ait peut-être un repositionnement au niveau, pas du choix des artistes, mais tu sais, on est un petit théâtre ici. Il y a deux lieux de diffusion, en fait, sur l'arrondissement. Il y a ici et il y a le Théâtre Desjardins. Le Théâtre Desjardins est une grande salle qui a été rénovée il y a quelques années, qui est attenante au cégep André-Laurendeau. Pas très loin d'ici, et qui est un petit peu dans le circuit des grandes salles comme on trouve plutôt à l'extérieur de Montréal, là, les salles qui font beaucoup d'humour, de chansons, qui vont beaucoup programmer en fonction de la capacité de l'artiste à remplir une grande jauge. Je trouve qu'ici, on a une jauge à échelle humaine, une proximité, en fait, avec l'artiste. C'est drôle parce que le théâtre ici, je pourrais dire que c'est presque une salle qui... Souvent, c'est ce qu'on va voir dans le milieu de la danse, c'est-à-dire que le plancher est vraiment au même niveau que les sièges. Donc, il n'y a pas l'idée de surélever l'artiste sur une scène, tu sais. Il n'y a pas de distanciation. Fait que je trouve que c'est un théâtre qui se prête à des petites formes intimes. Je trouve que c'est un théâtre qui se prête à un peu plus d'audace. Et comme on est un peu dans un circuit culturel et communautaire, il y a aussi l'enjeu de garder des billets qui sont très accessibles, vraiment abordables. Donc, je trouve qu'on pourrait être une plateforme pour des artistes qu'on voit moins, en fait. C'est un réel cadeau, je pense, dans le culturel, de ne pas vivre avec l'enjeu de remplir les salles. On reçoit du financement, tu sais, fait qu'on n'est pas dans cette logique-là de on n'a pas fait venir le bon nombre de personnes. Fait que je trouve qu'on pourrait vraiment se repositionner puis éviter nécessairement de passer par les artistes qui ont fait la voix ou de passer par des artistes qui ont déjà accès à des belles opportunités pour vraiment, vraiment plonger, en fait, dans ce mandat-là, d'aller chercher des choses moins mainstream, en fait, là. Ça serait mon rêve, peut-être, là. D'abord, je voudrais vous remercier tous de m'avoir écouté. J'aurais envie de finir avec une petite phrase, en fait. C'est toujours un enjeu quand on est issu de l'immigration aussi, sur à quel point on a la possibilité de conserver qui on est, d'où on vient, à travers la culture d'accueil. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je ne me souviens pas le nom de l'auteur, je m'en veux présentement, mais qui dit « Avec l'anglais, on va au bout du monde, mais avec sa langue maternelle, on va au fond des choses. » Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est ça, j'aurais envie de terminer sur cette note-là.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!